Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à l'histoire de la Poste et des communications, après avoir évoqué le courrier et l'information dans la Résistance lundi, avec l'entretien que nous ont accordé à l'occasion du concours national de la Résistance et de la déportation Denise Vernet et Anice Postel-Vinet, puis nous être intéressés mardi à l'invention du service des lettres au Père Noël, et hier avoir plongé sous terre à la recherche du réseau pneumatique qui permettait avant le net de lancer ses messages à toute vitesse dans la ville, nous allons ce matin plonger dans le temps pour nous retrouver dans l'Empire romain. Comment transmettait des messages sous l'Empire romain? Quel type de messages circulaient entre le cœur de l'Empire et les provinces? Qui étaient les messagers? Où s'arrêtaient-ils pour permettre la transmission des nouvelles de Rome à l'autre bout de l'Empire en quelques semaines? C'est ce que nous allons voir ce matin en compagnie de Perrine Cavran, qui a préparé cette émission avec nous, et de nos deux invités, Sylvie Crogier-Pétroquin, est professeure à l'Université de Tours en histoire romaine et en archéologie et spécialiste du Cursus Publicus, le service de transport officiel de l'Empire. Et Claire Sotinel est professeure d'histoire romaine à l'Université de Paris-Est Créteil, spécialiste de l'Antiquité tardive, et elle a travaillé sur la circulation de l'information sous l'Empire romain. Véhiculatio.
Mansio.
Cursus Publicus.
Mutatio.
Via Egnatia.
Employé ab epistulis.
Statio.
Table de Pöttinger.
Tabellarius.
Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem.
Diplomata.
Via Domitia.
Itinéraire d'Antonin. Voici quelques-uns des termes qui vous sont familiers. À vous, Claire Sotinel, bonjour. Et également à notre invitée Sylvie Crogier-Pétroquin. Vous êtes spécialiste, Sylvie Crogier-Pétroquin, du Cursus Publicus. Et donc, nous avons voulu commencer cette émission avec quelques-uns des termes latins dont vous êtes familière, donc, et qui recouvrent plus ou moins cette question de la transmission des nouvelles, la transmission des informations, la transmission des édits impériaux d'un bout de l'Empire à l'autre. C'est quoi tous ces mots, véhiculatio, mansio, mutatio? Est-ce qu'on sait vraiment d'ailleurs ce qu'ils recouvrent? Puisque quand on vous lit, on s'aperçoit que les historiens et les historiennes d'aujourd'hui ont beaucoup de mal à comprendre exactement ce qu'était ce réseau d'informations qui couvrait tout l'Empire.
Oui, bonjour. Les mots, les historiens aujourd'hui se basent en fait sur différents types de sources, les inscriptions, les textes littéraires et juridiques surtout. Et puis, les sources archéologiques. Mmh. Alors, on a une catégorie de mots comme la mansio et la mutatio que vous avez désignés, qui désignent en fait les relais de poste. Mmh. On va mettre ça entre guillemets, parce que ce ne sont pas obligatoirement des relais de poste. La statio aussi en fait partie. Et puis, le diploma ou l'évectio ou l'angaria, ce sont des permis qui permettent d'utiliser ce qu'on va appeler la poste, pour faire bref, mais qui n'est pas une poste au sens moderne du terme.
Et les frumentarii, par exemple?
Alors, le frumentarius, ou la gens sine rebus, ou le veredarius, ou bien d'autres mots encore, ou le tabellarius, que vous avez nommé, désigne les personnes qui s'occupent à divers titres de ce service de transport.
Alors, quelle différence y a-t-il, peut-être, il faut déjà commencer par là, chronologiquement, entre ce qui se passe sous la République romaine et ce qui va se passer sous l'Empire? C'est-à-dire en quoi l'arrivée donc à la tête de cet empire naissant d'Auguste va-t-il changer les choses et va-t-il changer ce qu'on peut savoir de la transmission des nouvelles et des informations dans ce qui était une république auparavant et ce qui devient un empire, Sylvie Crogier-Pétroquin?
Alors déjà, il y a une première chose, c'est une notion d'échelle. Sous l'Empire, l'Empire est évidemment, le territoire est évidemment plus grand, et donc ça change la nécessité d'avoir des informations. Ensuite, sous la République, c'est simple, le cursus publicus qu'on appelle au début de l'Empire la véhiculatio n'existe pas. Mmh. Il n'y a pas de service de transport officiel.
Comment on se débrouille?
On se débrouille...
Quand on est Cicéron, par exemple.
Quand on est Cicéron, on est magistrat, donc on a comment dire, la possibilité de faire des réquisitions auprès des provinciaux quand on part en mission. Et puis, on a suffisamment de poids, de pouvoir politique pour, et d'argent également pour avoir aussi ses propres messagers.
Des coursiers, quoi.
Des coursiers, oui.
Personnel.
Et les gouverneurs ont leurs propres messagers également, qui sont souvent des soldats, par exemple. Sinon, quand on est un particulier, mais on se débrouille pour faire acheminer sa correspondance.
En la confiant à d'autres individus qui voyagent.
À d'autres individus, des marchands, des amis, mais aussi des messagers officiels.
Périne Quimbran.
Oui, parce qu'il faut peut-être préciser que ce cursus publicus dont on va parler beaucoup aujourd'hui concerne surtout le courrier officiel et puis le transport de bien d'autres choses que le courrier, mais que ce qu'on imagine nous être la poste, à savoir quelqu'un qui veut écrire à quelqu'un d'autre pour lui donner des nouvelles, ne concerne pas du tout le cursus publicus. Le particulier ne peut pas y avoir recours, il n'y a pas de service de poste pour s'écrire et se donner des nouvelles.
Sylvie Crogier-Pétoquin.
Effectivement, la véhiculatio ou le cursus publicus est un service de transmission officielle, un instrument pour l'État et le pouvoir pour qu'il ait de l'information venant des provinces ou qu'il puisse faire transmettre les dispositions qu'il prend.
Alors, j'ai dit au départ que les historiens et les historiennes dont vous êtes ont parfois du mal à s'y retrouver, à la fois dans la terminologie, mais également doivent avoir recours à l'archéologie pour mieux comprendre ce qu'il en est. Il y a quelques textes très peu nombreux, comme celui de Suétone, qui est donc cité dans tous les articles qui traitent de cette question-là, parce que c'est un des rares textes qui soit assez précis pour racontant comment l'empereur Auguste estime que pour être informé et savoir ce qui se passait dans chacune des provinces plus rapidement, il établit en premier lieu des relais de jeunes hommes postés à de courtes distances, le long des routes militaires, puis des relais de voitures. Ce système parut plus commode, dit Suétone, dans la mesure où les mêmes hommes qui portaient les lettres d'un lieu donné pouvaient aussi être interrogés en cas de nécessité. C'est presque un des textes les plus précis qu'on a pour comprendre comment fonctionne justement et comment a été créé ce cursus publicus par Auguste, Sylvie Crogier-Pétoquin.
Je dirais surtout que c'est l'acte de fondation du service de transport. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, il n'existait pas sous la République. Après, on a d'autres textes aussi très précis, mais sur des différents aspects de ce cursus publicus, comme par exemple dans le Code théodosien.
Pourquoi est-il important, Claire Sautinel, vous qui êtes spécialiste en particulier de la christianisation de l'Empire romain, de s'intéresser à cette question du transport des nouvelles, du transport de l'information au sein d'un empire aussi vaste que l'Empire romain ?
C'est intéressant aussi pour sortir de la question du cursus publicus, pour de poser la question que vous avez posée à l'instant, que se passe-t-il pour les particuliers, pour les réseaux de personnes qui se connaissent et qui ne bénéficient pas de ce service qui, comme le disait Sylvie, est un service tout à fait officiel. L'information... Et le véhicule de, enfin la circulation des messages est le véhicule d'une information officielle, d'ordre, de connaissance de ce qui se passe sur les frontières, de connaissance de ce qui se passe dans les provinces.
Les révoltes,
mais c'est aussi ce qui fonde le ciment d'un empire. L'information, c'est ce qui, il faut qu'il y ait transmission à distance pour que des idées communes, pour que des opinions se forment. Auprès de certains groupes, évidemment, il n'y a pas une diffusion forcément dans l'ensemble de la société. Mais lorsque l'historien observe l'Empire romain comme une entité, même dans sa variété, il est obligé de tenir compte de la circulation à distance des nouvelles pour que ça fasse sens.
Périne Quimbran.
Oui, parce que quand on vous lit, on comprend bien, et c'est bien normal, que cette circulation de l'information, c'est le ciment du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir ne peut être assuré que si les ordres, que si les décisions et que si l'information circule dans tout l'Empire.
Claire Sautinel.
Les ordres, les décisions et les représentations du pouvoir, vraiment l'idéologie du pouvoir, mais aussi l'idéologie religieuse avec le christianisme. Et c'est pour ça que le christianisme est, comme l'a bien montré Régis Debray et d'autres avec lui et avant lui, est un fait d'information aussi. Tout ce qui est de l'ordre de la diffusion d'idées nouvelles passe forcément par des éléments matériels de transmission des nouvelles.
Sylvie Crogier-Pietrequin, est-ce qu'on a compris, est-ce qu'on sait pourquoi Auguste a eu cette intuition ? qu'il fallait organiser justement ce qui était au départ un désordre d'une certaine façon dans un service qui soit justement un service de communication à la fois de ses nouvelles, des nouvelles des gouverneurs vers lui-même, mais également de son image par cet intermédiaire du cursus publicus qu'il crée justement.
Ça rentre, l'action d'Auguste rentre en fait dans toute son action d'organisation du territoire impérial, de sa réorganisation presque administrative. Hein, il découpe les provinces, il en crée, etc. Et donc c'est plutôt dans ce cadre-là d'organisation administrative. Il crée des préfectures, dont la préfecture des véhicules, mais aussi beaucoup d'autres, et qui détermine en fait cette création de la véhiculatio.
Mais c'est un énorme effort économique aussi, parce que ça veut dire qu'il faut donc tracer des routes, il faut les améliorer pour que cette circulation d'informations aille plus vite, il faut imaginer un réseau routier qui est déjà présent du temps de la République, mais qui, je l'imagine, au fur et à mesure que l'Empire s'accroît, va devenir de plus en plus proliférant et donc va nécessiter de penser aussi la transmission de ces nouvelles d'un point à un autre le plus rapidement possible en cas de conflit, en cas de révolte, en cas de problème sur les frontières, par exemple.
Oui, le plus rapidement possible, mais aussi de la façon la plus sûre possible.
La plus efficace.
La plus efficace. Ça n'est pas grave si ça met plus de temps que prévu. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit sûr que les nouvelles et l'information circulent et arrivent à la personne qui convient.
On a une petite idée du temps de transport d'une nouvelle, par exemple, au 1er siècle après Jésus-Christ, de notre ère, d'une nouvelle depuis Rome jusque les confins de l'Empire. C'est quoi ? C'est un mois à peu près ? C'est combien ?
Oh non, beaucoup moins. Et de toute façon, les délais de route que l'on a sont essentiellement des records, soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est-à-dire qu'on mettra 6 jours pour aller de Rome jusqu'au fin fond de la Germanie, mais on pourra mettre 3 mois ou plusieurs semaines pour traverser une partie de la Méditerranée parce qu'il y a eu des problèmes de tempêtes et autres. Donc il est difficile de donner un
temps moyen.
Un temps moyen.
On dit 75 km par jour, c'est ça à peu près
Oui, mais uniquement pour le messager à cheval, évidemment. Le service de transport utilise aussi les chars à bœufs, si je puis dire. Donc là, évidemment, c'est pas 75
km par jour. Oui, il y a deux types de courriers, pourrait-on dire. Il y a un courrier lent et un courrier très lent.
Un transport lourd et un transport rapide.
Claire Sautinel.
Oui, je crois que cette question du facteur temps est très importante pour comprendre à quel point c'est différent, la situation est différente dans l'Antiquité, et pas seulement dans l'Antiquité. Le temps est un élément parmi d'autres, et c'est vrai que la sécurité est plus importante, et le temps est un élément variable, forcément. Du coup, les gens, les nouvelles ne sont jamais attendues à un moment précis. On les attend en permanence, elles finissent par venir, mais le temps n'est pas l'obsession principale, il me semble, d'aucun courrier, ni public, ni privé.
Périne Cabran.
Peut-être vous pouvez, pour nous donner une idée précise, essayer de nous décrire concrètement comment cette véhiculatio fonctionne, c'est-à-dire à quelle distance sont les relais, qu'est-ce qu'on trouve dans un relais, est-ce que le transport se fait avec un messager, plusieurs messagers, est-ce que quelqu'un attend à chaque endroit, comment ça se passe concrètement si on veut faire partir une nouvelle de Rome jusqu'à, la Gaule.
Calion, mettons.
Voilà,
la capitale des Gaules. Bien, en fait, il y a encore une fois deux types de transport. Le transport des nouvelles, des messages officiels, soit donc de Lyon à Rome, soit inversement. Et donc, dans ce cas-là, imaginons de Rome à Lyon, eh bien, l'empereur donne une lettre, si je puis dire, à un messager, un tabellarius, une lettre scellée avec son sceau. Ce messager a un diploma, c'est-à-dire une sorte de passeport, qui mentionne les dates, la date de départ, la date prévue d'arrivée, son itinéraire et les endroits où il doit s'arrêter et le délai qu'il doit mettre.
On a la chance d'en avoir conservé quelques-unes.
Ah, mais malheureusement, non.
Parce que ça serait utile pour une historienne comme vous.
Et aussi l'itinéraire. Donc, voilà, c'est un petit peu comme à l'époque moderne, en tout cas, les soldats qui ont un itinéraire précis. Puis il y a le service de transport officiel qui est au service des fonctionnaires ou des gens envoyés en mission, comme les sénateurs, par exemple, par l'empereur, où là, on leur donne aussi un passeport. passeport qui leur permet de réquisitionner sur les voies qui sont équipées de relais de poste, une voiture et deux mules, plus un cheval supplémentaire ou un char à bœuf, justement, etc. etc.
Périne.
Et est-ce que c'est toujours ce même messager qui fait l'intégralité du voyage ou est-ce qu'au contraire, il remet au prochain relais ce courrier à quelqu'un d'autre qui le remet à quelqu'un voilà.
Alors, sous la République, au début de la création d'Auguste, le messager changeait. C'est ce que nous dit le texte de Suétone. Ensuite, Auguste estime que c'est plus sûr, justement, encore une question de sécurité, de n'avoir qu'un seul messager, tout simplement parce que l'oral l'emporte encore sur l'écrit. Néanmoins, on peut interroger le messager à l'arrivée si on veut des informations supplémentaires. Mais il y a également la poste militaire. En Égypte, par exemple, la poste militaire, là, il y a changement de soldats, de messagers, donc, à chaque fortin.
Et ça ressemble à quoi une mensio ou une mutatio, c'est statio, stationesse, donc, terme qui rassemble visiblement l'un et l'autre, d'après ce que j'ai cru comprendre, enfin, on n'est pas tout à fait sûr. Sylvie Crogé-Pétroquin, c'est quoi exactement? C'est au bord d'une route, c'est une sorte de relais de poste, un hôtel, ça ressemble à un caravane-sérail, c'est quoi exactement ce type de bâtiment qu'on trouve sur les routes pour pouvoir justement changer de chevaux, changer d'attelage et aller un peu plus loin?
Alors, la mensio et la mutatio, c'est ce que j'ai montré dans mes recherches, ce sont en fait des agglomérations dans lesquelles il y a un relais de poste, donc éventuellement qu'on pourra appeler une statio en latin. Et ce sera le cas, par exemple, d'Ambrussum, donc près de Montpellier, où on a une agglomération qui a, entre autres fonctions, la fonction de relais et qui a un bâtiment officiel qui ressemble, je ne sais pas moi, à une sorte de grands bâtiments très solides avec des chambres, des écuries, des cours, etc., des thermes même, et puis qui donc fait office de relais de poste. Donc ça ressemble, une mention de mutatio, à tout simplement une agglomération en général.
Et puisque vous évoquez justement cette question de Ambrussum, eh bien, on est allé interroger, en l'occurrence, Pascal Roman du Musée de la Poste, qui s'est intéressé, lui, en tant que spécialiste de l'histoire de la Poste, à cette localité d'Ambrussum.
Ambrussum, c'est une petite colline où déjà même, puisque je suis originaire de Galargue, quand on allait y gratter avec mon grand-oncle, on y ramassait déjà quelques tessons de sigiléo, donc on voyait bien des traces de remparts également, qu'il y avait eu une occupation humaine depuis bien longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que on a encore les traces, même une belle arche encore d'un pont romain qui s'appelle le pont Saint-Ambroise, qui est juste en bas, où passait justement la voie domitienne. Et on voit que comment cette route est entièrement aménagée à la hauteur de Galargue, d'Ambrussum, pardon. On y voit par exemple toute la construction d'un site qui est le site des auberges et en même temps de la mutatio et de la mansiones du cursus publicus romain. Et ce relais est intéressant parce que on y voit à la fois un lieu qui est en même temps une hôtellerie. On y trouve également une forge. Dans cette forge, on y a trouvé des traces ou des scories de morceaux de fer qui indiquent qu'il s'agissait de pièces pour réparer les roues des véhicules, les fers des chevaux. On a même des bains. Et puis en même temps il y a des auberges en quelque sorte qui ne sont pas officielles et qui ne font pas partie du cursus publicus et qui vont venir se greffer en quelque sorte ou jouxter les bâtiments appartenant au cursus publicus.
Les fouilles nous donnent à lire que la raison d'être d'un endroit pareil c'est la poste.
Absolument, c'est pas systématiquement la poste, mais en tout cas en grande partie la poste, et puis toute l'économie bien sûr qui tourne autour, les échanges commerciaux, les véhicules, tout cela, et j'allais dire, c'était un peu, excusez la comparaison, mais un petit peu comme sur une aire d'autoroute, vous avez à la fois ce qui est nécessaire pour la machine elle-même, c'est-à-dire du carburant, de l'huile, de l'eau, et ce qui est nécessaire pour le conducteur de la machine, c'est-à-dire une sorte de petit restaurant.
En considérant que la vitesse est d'à peu près 75 km par jour pour le courrier, en comptant les relais, ça nous met Ambrussum à peu près 2 semaines de Rome. Et c'est assez rapide finalement.
Oui, c'est exact, ça fait à peu près 2 semaines.
Comment expliquer que le site est abandonné progressivement vers le 5e siècle ?
Le site est abandonné parce que l'économie elle-même va changer. Vous aurez les premières invasions barbares, les Vandales vont arriver. Les premiers seigneurs vont s'installer. Eh bien, si le seigneur se trouve ou construit sa bâtisse sur un endroit stratégique à proximité d'une rivière, il va forcément installer un pont en bois. Pourquoi ? Parce qu'il va prélever un péage sur ce qui passe sur ce pont. Et si, ma foi, il y a un pont romain à 3 ou 4 kilomètres de là, ben, on est tenté d'en faire sauter une arche pour obliger les gens à passer sur son propre pont. Et c'est tout ce système économique qui fait que lentement vont disparaître toute l'organisation qui existait sous l'Empire romain.
Pascal Roman du Musée de la Poste, interrogé par Olivier Chaumel, qui a préparé les deux documentaires de cette semaine dans la Fabrique de l'Histoire, donc autour de la question de la Poste et des communications. Nous discutons actuellement donc de ce réseau d'informations, de circulation d'informations, de nouvelles au sein de l'Empire romain, avec nos deux invités, donc Sylvie Crogier-Pietrequin et Claire Sautinel. Alors Sylvie Crogier-Pietrequin, vous fouillez un site qui est, je crois, celui du Petit Saint-Bernard, alors énormément bouleversé, expliquez-vous, par les travaux contemporains, la construction, les constructions du 19e et du 20e siècle. Mais néanmoins, en tant qu'archéologue, vous pouvez tenter de repérer ce qu'était justement une mutatio à cet endroit précis des Alpes, qui était dans un endroit important, parce que ça permettait tout de même de passer les Alpes et de transmettre des informations plus rapidement. Alors, si Sylvie Crogier-Pietrequin, quand on cherche sur un sujet comme celui-ci, quand on va fouiller sur un sujet comme celui-ci, eh bien, qu'est-ce qu'on espère trouver et qu'est-ce qu'on trouve au bout du compte ? On parlait de forges, on parlait de choses comme ça pour Ambrosome, mais c'est pour le Petit Saint-Bernard.
Au Petit Saint-Bernard, la situation est différente d'Ambrosome parce que ce qu'on espère trouver, c'est des preuves que c'est bien, non pas un relais de poste, parce que ça ne peut pas être autre chose, mais des preuves de la construction et du fonctionnement, des dates de fonctionnement de ce relais. Et puis, on espère aussi trouver des moyens de pouvoir identifier d'autres relais par les critères, par les éléments qu'on aurait trouvés en fouille au Petit Saint-Bernard, lieu dans lequel on est sûr qu'on a affaire à une station de la poste.
Vous voulez dire que c'est un peu comme pour la création des gares de chemin de fer au 19e siècle, on aurait eu tendance à construire à peu près la même chose à distance différente, avec des bâtiments qui se ressembleraient, et donc ça permettrait d'avoir une sorte de jauge du type de bâtiment qui est concerné par ce type d'implantation liée au transport du cursus publicus
Le même type, très exactement, non. Mais néanmoins, une auberge ou un hôtel maintenant, ou même un bureau de poste, a toujours des éléments caractéristiques qui se retrouvent, ou une caserne par exemple, ou un hôpital, des éléments caractéristiques qui se retrouvent partout. Donc au Petit Saint-Bernard, on a aussi des éléments qui permettent de dire qu'il y a une forge. On a retrouvé sans doute le passage de la voie. Bon, on a aussi un temple. Donc voilà, tous ces éléments qui permettent de prouver, encore une fois, la signification d'un bâtiment.
Périne.
Et ça montre bien la formidable organisation qu'il a fallu mettre en place, parce que s'il faut effectivement pouvoir loger les voyageurs, leur fournir des montures fraîches, assurer le stockage des transports quand on transporte des troupes ou quand on transporte, je sais pas, des grains, etc. Parce que ce n'est pas uniquement le courrier qu'on transporte, c'est aussi bien d'autres choses. Et ça montre bien qu'il faut une infrastructure incroyable à travers tout l'Empire.
Oui, je sais pas, Claire Sautinel.
Oui, ben c'est effectivement une des grandes tâches du pouvoir impérial, mais délégué aux provinces. Et on a des attestations extrêmement tardives. On en a encore, je pense, à des lettres de Cassiodore au VIe siècle, qui évoquent à l'occasion, comme toujours, de problèmes qui permettent de formuler des problèmes de provinciaux qui ont pour charge fiscale, d'élever des chevaux à proximité des stations, de façon à ce qu'ils soient disponibles pour les relais. Et ça fait partie des taxes que doivent payer les provinciaux. Donc c'est effectivement un des éléments de cette formidable machine administrative, bon, loin d'avoir autant d'emprise qu'un État moderne, mais qui est quand même extraordinairement sophistiqué, et qui fonctionne entre autres parce que les responsabilités sont déléguées au niveau de chaque province. Mmh. Ce qui fait que
c'est la décentralisation.
Voilà, c'est une sorte de décentralisation à partir du centre.
Sylvie Crogier-Pietrequin.
Oui, tout à fait. Le cursus publicus est d'abord une administration. Autrement dit, ça ne coûte quasiment rien, puisque les chevaux, les relais, les écuries sont bâtis aux frais des provinciaux. Les chevaux sont fournis comme...
C'est intelligent, tout ça.
Le maréchal Ferrand aussi, le conducteur du chariot également. Donc ça ne coûte pas grand-chose et ces réquisitions de chevaux, de bœufs, de voitures, etc. Et ces constructions de relais sont uniquement à la charge des provinciaux.
Claire Sautinel.
Et en même temps, ces relais qui pèsent sur les provinciaux ont aussi structuré la géographie urbaine de l'Empire, puisque, comme on l'a dit, ces installations sont des agglomérations aussi, parce qu'elles génèrent des agglomérations. Et on le voit bien avec des itinéraires, on a, comme souvent, beaucoup de documentation pour la période tardive de l'Empire. Un récit comme le récit du pèlerin de Bordeaux à Jérusalem.
L'itinéraire de Bordeaux à Jérusalem, que vous citez souvent.
Établit des étapes qui coïncident avec ces stations officielles, mais qui sont utilisées là par des personnes privées et qu'il faut imaginer comme des petites bourgades qui permettent aussi aux provinciaux de gagner leur vie autour des activités liées à la poste.
Périne.
Oui, parce que finalement, autour de ces relais se développent des restaurants, des auberges, des petits hôtels, peut-être, je ne sais pas, effectivement, des forgerons, tout un tas d'entreprises, des temples qui servent, qui créent une agglomération et qui génèrent une économie.
Qui génèrent une économie, effectivement, puisque les personnes privées qui voyagent et les serviteurs, les esclaves, les porteurs de lettres, les notaires de l'église, etc., puisque l'Église n'a jamais créé un modèle parallèle ou utilisé le modèle impérial, mais a fonctionné de façon privée. Tous ces gens-là se retrouvent très vraisemblablement, enfin dans les mêmes endroits qui offrent toutes les infrastructures nécessaires aux voyageurs et à la transmission des lettres.
Sylvie Crochet-Pétourquin, on a cité à l'instant l'itinéraire de Bordeaux à Jérusalem. Il y a deux ou trois autres itinéraires qui nous permettent d'avoir peut-être une petite idée, justement, au moins de ces routes et sinon de ces arrêts. Alors, il y a l'itinéraire d'Antonin que j'ai perçu en vous lisant, la table de Peutinger, mais qui est beaucoup plus tardive, mais dont on sait ou dont on pense qu'elle reprend des itinéraires anciens du IIe siècle après notre ère, de notre ère. Alors ça, c'est important aussi que d'avoir cette géographie comme centralisée, pourrait-on dire, de l'Empire, en considérant comment on passait d'un point à un autre de l'Empire par ses routes, donc, et par ses arrêts, ses stations, etc.
Oui, ces sources itinéraires sont très importantes, en particulier l'itinéraire de Bordeaux à Jérusalem, parce que c'est quasiment le seul document écrit.
Il date de quand, cet itinéraire ?
333. Qui nous indique les termes mensio et mutatio, et donc l'équilibre entre
la distinction
entre les différentes mutationes et les mensiones. Et puis il nous indique aussi des quiwitates, des cités, qui servent donc de relais. Et cet itinéraire de Bordeaux à Jérusalem, comme vient de le dire Claire, est le reflet d'un voyage privé. Bien que c'est tout de même pas n'importe qui voyage, évidemment, tandis que l'itinéraire d'Antonin ça n'est pas un itinéraire précis, c'est un recueil de différents itinéraires qui partent souvent en étoile d'ailleurs d'un point à un autre et qui est beaucoup plus officiel là et qui ne mentionne pas obligatoirement la différence entre mentio et mutatio. Donc on a des documents de nature très très différente qu'il faut essayer de croiser pour justement avoir des informations les plus sûres possibles.
Quand vous dites la différence entre mentio et mutatio, c'est une différence de nature, de lieu, ou c'est une différence de taille de lieu ? Qu'est-ce qu'on peut dire de cela pour nos auditeurs ? Qu'est-ce qui différencie l'un et l'autre, d'après ce que vous savez, après tous les travaux que vous avez faits sur ce sujet-là, Sylvie Crochet-Pétourquin ?
Je dirais d'abord une question de taille, certes. La mutatio est surtout une agglomération qui a comme fonction principale d'être effectivement relais de poste. C'est là où on change, on mute, la mutatio, où on change de voiture, ou de monture, ou de bête en tout cas. Et on peut être hébergé, comme on le voit en Broussonne, qui est mutatio dans l'itinéraire de Bordeaux à Jérusalem, et où on peut évidemment, puisqu'il y a des auberges, séjourner également. Tandis que la mentio, qui a donné ensuite le mot maison, on estimait il y a encore 10 ou 20 ans qu'on pouvait seulement y séjourner, contrairement à la mutatio. C'est pas tout à fait le cas. Je pense que la mentio, c'est d'abord un cadre fiscal. C'est-à-dire là où on a suffisamment de population pour pouvoir être, qui peut être réquisitionnée pour les corvées de la poste. Et évidemment, la mention est aussi une agglomération dans laquelle il y aura un relais de poste.
Claire Sotinel, alors vous, vous êtes intéressée plus particulièrement, non pas simplement à la poste et à l'organisation de ce cursus publicus, mais à cette transmission de nouvelles à partir du moment donc, où le christianisme devient important, voire prédominant dans l'Empire romain à partir du IVe siècle, mais également un peu auparavant, pour voir justement les différences entre ces chrétiens qui sont répartis sur l'ensemble de cet Empire romain sans que ce soit une religion d'État. Et puis ensuite, à partir du moment où Constantin passe par là, ce qui a pu se passer justement dans cette transmission de nouvelles entre chrétiens, à partir du moment où c'est devenu une religion d'État. Comment s'apercevait-on, comment transmettait-on les nouvelles? Qu'est-ce qu'on se disait entre chrétiens, donc mettons au 2e ou 3e siècle de notre ère? Qu'est-ce qu'on se disait, quelles nouvelles on se transmettait à partir du 3e ou du 4e siècle de notre ère? Et quelle est la différence? Est-ce qu'il y a des différences d'ailleurs? Et quels étaient les moyens, justement, pour ces privés qui étaient donc des chrétiens, de se transmettre des informations, justement, sur l'état de l'Église, l'état de leur Église, l'état de leur communauté, l'état des autres communautés entre elles.
Alors, ce que je trouve tout à fait fascinant dans cette question de l'information, c'est justement la façon dont l'information dépasse ce cadre officiel qui demande des spécialiste très pointu et très fin, mais qui est assez bien défini comme sujet. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'avec le christianisme, on assiste à une sorte de révolution de l'information, bien qu'il n'y ait aucune modification technique. Ce n'est pas du tout une révolution due à un support.
On ne va pas plus vite.
On n'invente pas des nouveaux moyens d'envoyer les messages. Mais c'est une révolution dans l'attente de l'information. Mm-hmm. Parce que le christianisme, qui n'est pas religion d'État avec Constantin, mais qui devient la religion de l'empereur,
bien sûr.
Ce qui évidemment change son statut, c'est une religion qui est fondée sur une idée d'universalité. De croyance. L'essence du christianisme, c'est que les gens qui sont chrétiens partout dans le monde vont croire la même chose. Or, pour ça, il faut savoir ce que les autres croient. Donc, d'emblée, le fait même du christianisme crée, et dans la mesure où le christianisme n'est pas lié à un pays particulier, à un État, à un lieu, à une province, mais est dès le début du 1er siècle diffusé, il crée un besoin d'information tout à fait nouveau, parce que pour pouvoir se dire chrétien, il faut un, savoir ce que c'est, et deux, vérifier qu'on est chrétien comme les autres.
Oui, c'est toute la question des canons, des conciles.
Oui,
quand un concile se tient, dites-vous, Claire Sotinel, combien de temps faudra-t-il pour que toutes les communautés chrétiennes de l'Empire romain soient au courant de ce qui a été dit? Il y a certaines des décisions de ce concile qui vont aller très vite, et puis il y a d'autres décisions de ce concile qui ne vont pas être communiquées très rapidement, ce qui fait qu'on peut avoir quasiment un siècle entre la communication de telle ou telle décision d'un même concile et d'une autre qui aura été beaucoup plus rapide, parce que l'empereur est passé par là.
Absolument.
La décision de la date de Pâques, dites-vous, eh bien, l'empereur le prend à son compte, considère que c'est important, le fait transmettre par l'intermédiaire de ses messagers du cursus publicus, ça c'est Constantin, à propos du concile de Nicée, mais en revanche, d'autres décisions qui sont également importantes de ce concile de Nicée mettront parfois 60 ou 70 ans pour pouvoir être communiquées aux communautés chrétiennes partout réparties dans l'Empire.
Et la grande nouveauté, effectivement, la grande différence entre le christianisme pré-constantinien et le christianisme post-constantinien du point de vue de l'information, c'est que certaines décisions concernant le christianisme sont, disons, pas toujours prises par l'empereur, mais validées par l'empereur, qui à ce moment met ce service officiel au service du christianisme. Mais, d'une façon générale, les communautés chrétiennes, à qui on offre d'une certaine façon de s'en servir tout le temps, le refusent. Et ça n'arrive que lorsque l'empereur en prend la décision.
Pourquoi elle le refuse ?
C'est une bonne question. Je pense qu'elle le refuse parce que les communautés chrétiennes ne sont en réalité à cette époque pas l'Église ou le christianisme, mais des réalités très, très variées qui vivent leur vie comme des associations dans le domaine privé et restent dans cette configuration.
Périne.
Oui, parce que c'est effectivement quelque chose qu'on lit dans vos travaux à toutes les deux, c'est que les particuliers, les privés, que ce soit les religieux, utilisent parfois le cursus publicum, alors parfois un peu frauduleusement, en profitant, en essayant de s'arranger discrètement à quelqu'un qui a un diplôme, parfois parce qu'on leur offre la possibilité, et puis d'autres fois ils utilisent les routes, les itinéraires, les relais qui sont là, mais pour transporter eux-mêmes le courrier. Il y a finalement, ça se confond d'une certaine manière.
Il y a une vraie porosité, je crois, en tout cas dans l'Empire tardif, il n'y a pas une distinction précise, aussi précise qu'on pourrait l'imaginer, entre ce qui est officiel, public et ce qui est privé. Parce qu'il y a des aristocrates qui sont aussi des magistrats et qui vont envoyer à la fois des documents officiels et rajouter dans le sac, c'est la valise diplomatique. Hein, on rajoute aussi
des spécialités locales.
Un pot de moutarde pour en faire goûter aux amis exilés ou des choses comme ça. C'est un peu la même chose. Et puis, il y a quand même, on le voit bien avec l'itinéraire de Bordeaux à Jérusalem, la possibilité de sortir de cette centralisation. Bordeaux-Jérusalem, ça ne passe pas par Rome. Mmh. Et de circuler dans l'Empire en utilisant les infrastructures routières et d'information.
Sylvie Crogé-Pietroquin sur ce point.
Oui, alors autant Auguste a été donc le fondateur, autant Constantin a eu un rôle aussi extrêmement important à cause de sa religion, puisque à partir de Constantin, les évêques, quand ils sont conviés à un concile,
ils peuvent prendre
le droit d'utiliser le cursus publicus. Ils reçoivent même des permis. Alors certains ne veulent pas l'utiliser, pour des raisons que Claire expliciterait mieux que moi. D'autres en profitent. Et effectivement, les particuliers profitent de ces infrastructures pour faire passer leurs lettres. Mais comme nous faisons, quand nous confions un colis aujourd'hui à des porteurs particuliers, par exemple.
Mais Claire Sautinel.
Je veux dire que ça ne concernait que les conciles impériaux qui sont peu nombreux. Il y en a 5 dans toute, entre le 3e et le 6e siècle. Et pas tous les conciles.
Oui. Mmh. Alors, par exemple, ça permet aux chrétiens de mettre à jour la liste des évêques. C'est-à-dire que les évêques, sa vie, ça meurt. Comment savoir que tel évêque, dans telle partie de l'Empire, est mort, qu'il y a eu une élection, que cette élection a donné la nomination d'un autre évêque qu'on ne connaît pas forcément? Comment lui faire savoir qu'on est au courant? Tout cela, c'est ce sur quoi vous travaillez, Claire Sautinel, et c'est extrêmement intéressant parce que c'est ce qui crée, justement, c'est ce qui a la volonté de créer cette unité de l'Église qui n'existe pas au départ. Je crois qu'il y a 200 communautés qui sont présentées dans certains des premiers conciles, qui sont des communautés éparpillées un peu partout sur la surface de l'Empire.
Oui, avec des langues différentes, avec des pratiques différentes. Et c'est ce que j'évoquais en parlant de besoin d'information. Savoir qui est évêque à Alexandrie devient dans la chronique d'un petit évêque crotté d'Espagne au 5e siècle, devient une information extrêmement importante. Et quand on rencontre des gens, on veut savoir ça. Mais ces informations, elles, ont continué de circuler de manière par des réseaux privés. Organiser chaque évêque se créant son petit service de messager, mais les envoyant à titre privé, en suivant les routes très variables selon les sièges épiscopaux, mais ça marche et c'est ça qui est extraordinaire.
C'est ce qui explique l'importance dans le christianisme et en particulier le christianisme donc tel qu'il nous a été transmis au fur et à mesure des siècles, des lettres justement.
Oui,
les lettres
absolument.
Des apôtres aux Corinthiens, les lettres des apôtres à d'autres populations. Le terme même de lettre correspond à cette question-là, c'est-à-dire à la fois unifier la doctrine, pourrait-on dire, et dire ce qu'il faut penser quand on est Saint Paul, quand on est quelqu'un d'autre, comme ça, aux communautés les plus lointaines.
Et créer effectivement un lien entre des communautés lointaines, savoir quand on est dans une communauté italienne qu'on est en communion avec des évêques en Syrie, en Égypte, à Constantinople et ailleurs. Et ça, c'est un discours répété continuellement par l'Église qui crée un sens de l'espace au moment même où l'Empire se défait. C'est ce mouvement de bascule qui est tout à fait extraordinaire.
Périne Garbrand.
Mais il devait y avoir parfois des courses contre la montre quand on doit annoncer une nouvelle, je ne sais pas, la mort d'un empereur, l'arrivée d'un nouvel empereur, la défaite ou la victoire lors d'une bataille. Et la vitesse à ce moment-là est ce qui importe le plus.
Sylvie Crogé-Pietroquin, par exemple, on peut se poser la question, effectivement, pour ces questions de mort d'empereur, quand il y a concurrence entre deux empereurs, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait ?
Je dirais pas que le plus rapide gagne, en fait. Le plus rusé, le plus fourbe. Mais par exemple, si on prend les années 68-70, l'année des quatre empereurs, si je puis dire, après la mort de Néron, au moment où Galba, qui est en Espagne, est sur les starting blocks, si je puis dire, il y a la course entre les messagers officiels qui viennent annoncer la mort de l'empereur précédent à Galba, et puis les autres messagers privés, justement, qui arrivent avant la nouvelle officielle. Et puis on a aussi...
Moi, je suis gouverneur, en Cilicie, par exemple, et je vois arriver des messagers venant d'un peu partout, me disant l'empereur, c'est un tel, et puis trois semaines plus tard, on me dit non, l'empereur, c'est plus un tel. Et comment ça se passe exactement quand j'ai en charge une partie de l'Empire romain? J'en rêve, évidemment. Qu'est-ce que j'en fais de ces nouvelles-là? Comment je valide l'information? Comment je dis je vais servir cet empereur dont je considère qu'il est légitime, alors qu'on me dit par ailleurs qu'il ne l'est pas? Qu'est-ce qui se passe?
Le problème, c'est justement le problème de la sécurité du message et du messager. C'est-à-dire, et le problème de la rumeur. C'est-à-dire, un messager non officiel n'est pas habilité, on va dire, en théorie, à diffuser une information sûre. Donc, c'est tout le problème de la concurrence. C'est de la politique, en fait. Le gouverneur va dire, est-ce que je crois la nouvelle? Est-ce que j'en profite ou pas? Est-ce que je peux encore utiliser les permis de poste que j'ai au nom de l'empereur?
Oui, donc ce n'est pas forcément le plus rapide qui gagne.
Non.
C'est toujours la question de la fiabilité de l'informateur.
Absolument.
Mais si on arrive à retourner ce service des informateurs à partir de ce moment-là, on a plus de chance encore. J'imagine qu'il y a dû avoir quelques empereurs putatifs qui ont dû chercher à avoir dans leur poche les responsables, les préfets justement, des véhicules pour pouvoir peut-être avoir plus d'assurance pour transmettre les messages les plus fiables et donc se faire obéir, non ?
Ce qui importe, c'est d'avoir le sceau finalement.
Oui. Hein,
comme le sceau royal, une des époques plus tardives, c'est d'avoir le sceau. Donc le messager qui n'a pas la lettre, le permis avec le sceau du gouverneur, de l'empereur en vie, eh bien, n'est pas considéré comme le messager officiel.
Périne.
Et justement, ces questions de sceau, donc c'est ce qu'on appelle les diplomates, je crois. Enfin bon,
oui. Vous allez
diplomata, on dit, ou diplomate? Je disais diplomata.
Diplomate au singulier, diplomata au pluriel.
D'accord.
Donc c'est sceau, ce qui assure la garantie de l'authenticité d'un courrier. J'imagine qu'il devait y avoir un trafic, qu'il devait y avoir peut-être des règlements parce qu'une fois qu'on a ce diplôme, est-ce qu'on l'a pour toute sa vie? Est-ce qu'on l'a pour une durée? Comment ça se passe pour que la légitimité soit assurée?
Ah, le permis est valable pour une mission.
Ah, bah oui, ça faut,
une mission
faut le dire.
Uniquement.
Ah oui, c'est destructible. Absolument. Après la mission.
Absolument.
C'est un peu comme Mission Impossible.
C'est-à-dire une autorisation de sortie du territoire, si je puis dire. Pour les,
Le département d'État dira d'avoir eu connaissance de vos agissements.
Voilà, donc c'est valable pour une seule mission, un seul voyage. À l'aller, évidemment. Le retour, c'est un autre permis.
Mais alors, ces personnels-là, sur lesquels on connaît peu de choses, qui transmettent ces messages, ils sont à la fois transmetteurs, mais sont aussi des espions, j'imagine, à la solde de l'empereur ou à la solde du gouverneur qui les envoie. C'est-à-dire qu'ils ont différentes missions. C'est un peu les services secrets en même temps que la poste, Sylvie Crogé-Pétrequin, ou pas?
Oui, on parlait tout à l'heure de valise diplomatique. Effectivement, le cursus publicus, c'est à la fois un service de transport officiel, de transport lourd. On transporte absolument n'importe quoi, y compris des impôts, d'ailleurs, et des denrées de luxe.
Des troupes aussi.
Et des troupes, oui. Des troupes malades, essentiellement. Des ours, même.
Pourquoi des ours?
Des ours, parce que Simac fait venir des ours pour les jeux de son fils.
Ah oui, pour les jeux, d'accord.
Des chevaux de cour. Également.
Mais c'était un abus, ces ours, non?
C'est un abus de pouvoir.
Normalement, c'est pas fait pour ça.
C'est-à-dire que c'est lui qui signe les permis de poste, donc, ma foi, il met, comme les valises diplomatiques, le pot de moutarde dont on parlait tout à l'heure.
Je crois qu'il s'est plaint que les ours étaient minables. J'ai lu ça chez vous.
C'est un petit ourson qui est arrivé, minable, et les chevaux de course d'Espagne sont finalement plutôt des bourrins, si je puis dire,
des mules.
Voilà, des canassons. Donc, le diplôme, il est valable uniquement pour un voyage, et alors il y a des trafic dans tous les coins, c'est ce que le code théodosien mentionne. On les vend,
parce que c'est un véritable petit pouvoir.
Oui,
même,
et on est évidemment... Donc il y a des abus de pouvoir, il y a des fraudes, il y a des trafics complètement illégaux, et les sanctions sont extrêmement sévères.
Et donc, ce petit côté espionnage que je rêve peut-être, il est exact. On en a.
Oui, alors
trace
espion,
les...
oui, service de renseignement plutôt.
Voilà, c'est
hein,
ça.
Les messagers sont surtout dans l'Antiquité tardive chargés de voir si, ma foi, comme l'information.
C'est des RG un peu. On fait un peu les renseignements généraux.
Oui, oui, et puis les renseignements généraux, et puis parce qu'on est à l'intérieur de l'Empire en même temps, donc on est dans le territoire impérial qui. Intérieur, donc ça ne peut être que DRG.
Claire Sautinel.
Oui, ces messagers sont sans doute rarement, en tout cas les corps auxquels ils appartiennent, n'en font pas exclusivement des messagers de toute façon. Le nom qu'ils portent dans l'Antiquité tardive, les agentes in rebus, pourrait se traduire par les hommes à tout faire, voire les hommes de main d'une certaine façon. Et porter des messages est une de leurs missions parmi d'autres. Et effectivement, on le voit très très bien, en particulier dans les zones frontières, que le rôle d'espionnage externe est important. Et la très mauvaise réputation qu'ont les frumentaires au début, puis les agentes in rebus dans la littérature contemporaine de l'époque, montre bien qu'ils sont soupçonnés de surveiller la population et d'être les yeux de l'État.
Alors, une des choses très importantes qu'on a mentionnées dans cette semaine, en particulier pour le contemporain, c'est le secret de la correspondance. Est-ce qu'on peut dire qu'on a compris, déjà sous l'Empire romain, que cette question, vous parliez de fiabilité tout à l'heure, Sylvie Grangé-Pietroquin, cette question du secret, du maintien du message intact de son expéditeur jusqu'à son destinataire, était quelque chose de fondamental, justement?
Oui, c'est fondamental parce que c'est une information officielle qui est donc quelque part sensible. Et donc, on doit être sûr que seul le destinataire a connaissance du message en premier. Après, il en fait ce qu'il veut, évidemment. Mais donc, la sécurité, encore une fois, est vraiment primordiale.
Est-ce que c'est la même chose pour les courriers privés? Par exemple, ces chrétiens qui sont parfois persécutés, est-ce qu'ils se transmettent des messages de ce type-là, Claire Sautinel, ou est-ce qu'ils peuvent voir lu leur correspondance et donc, à ce titre-là, être espionnés?
Alors, c'est une inquiétude des correspondants privés et des correspondances d'église aussi, qui montre bien qu'à la fois le souci de la confidentialité existe ou n'existe pas. Les décisions des conciles, on les diffuse pour qu'elles soient diffusées partout au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure des relais, on en donne un exemplaire.
Mais quand il y a un schisme, par exemple, on n'a pas intérêt à ce que le clan opposé et connaissance des messages qu'on envoie entre deux personnes du même clan, par exemple.
Là, la question ne se pose pas vraiment, parce que lorsqu'on a un schisme, de toute façon, on disqualifie l'autre, donc peu importe ce qu'il pense.
Vous dites que, par exemple, ça permet de savoir que quand deux personnes discutent entre elles par l'intermédiaire des lettres qu'elles s'envoient, eh bien, on sait qu'elles sont du même clan, du même bord,
voilà,
etc.
Par exemple.
C'est-à-dire que dis-moi avec qui tu corresponds, dites-vous, et je te dirai de quel clan de cette église en scission.
Tu peux être aussi, mais on voit aussi dans le cadre de débats théologiques naissants, plus que d'hérésie, c'est plutôt l'hérésie qui serait sensible plutôt que le schisme, des gens envoyaient des messages dans lesquels, écrits dans les lettres qui nous sont transmises, des messages très superficiels qui se terminent par « le messager te dira le reste ». Parce que la confidentialité est plus sûre aux mains d'un messager qui est un ami ou un clerc de l'Église qui va transporter le message qu'auprès d'un message qui peut être ouvert et qui donc est potentiellement dangereux.
Périne.
Et est-ce qu'on essayait aussi, pour être sûr de voir son courrier arriver, d'envoyer plusieurs lettres par plusieurs intermédiaires, la même lettre par, je ne sais pas, l'intermédiaire d'un marchand, l'autre par l'intermédiaire de, je ne sais pas, d'un autre voyageur?
Oui, parce qu'au bout du compte, il y a tout de même un risque. Il suffit que la personne qui transporte ce message meure en chemin et le message n'arrive jamais. Enfin, que c'est vite régé,
pas de... Oui, mais comme Claire le disait tout à l'heure, comme on n'attend pas le courrier, on ne sait pas si il est parti.
Oui, mais celui qui l'a envoyé, il a intérêt à savoir s'il est arrivé.
Oh, bah, on a parfois des témoignages ou de lettres, justement, d'un personnage qui dit « je ne comprends pas, je t'ai écrit 10, 15 lettres et puis tu ne m'as toujours pas répondu ».
Périne.
Alors, ça dépend aussi du temps et du délai mis à...
Et ça dépend de la manipulation de l'information, parce que le coup j'ai pas lu ton email ou la poste est en retard, ça existe déjà beaucoup
mission
à l'époque. Et votre question est très intéressante et je dois réaliser que je n'ai aucun souvenir d'avoir jamais vu mentionner explicitement le fait d'envoyer plusieurs fois le même message pour être sûr qu'il arrive. J'ai envoyait plusieurs lettres, donc par des messagers différents, oui. Ça revient peut-être un peu au même, mais c'est successif. C'est puisque tu ne m'as pas répondu, je t'ai réécrit.
Perrine.
Et alors, peut-être on n'a pas parlé, il faut peut-être l'évoquer. Là, on a évoqué, on a parlé beaucoup de gens qui passent par les routes, mais le courrier peut passer par les mers. Il y a d'autres moyens d'acheminer. Et là, les délais, j'imagine, en fonction des itinéraires des marchands, des navigateurs, deviennent de plus en plus élastiques.
Ça fluctue tout de même, Sylvie Roger Pietrequin. Et puis, il y a toute une période où la Méditerranée n'est pas navigable, entre quoi, novembre et mars. Et donc,
oui, enfin, déjà... elle est fermée en théorie, mais en fait, on s'aperçoit que, de toute façon, il y a tout de même beaucoup d'exceptions. On va dire, hein. C'est pas comme les routes d'école qui sont fermées et enneigées. Oui, bah là, les délais sont, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est, il y a des records de lenteur et des records de rapidité selon la saison, le sens des vents, si je puis dire, et puis les tempêtes.
Est-ce qu'on sait comment un expéditeur choisit le type de chemin que va prendre, un peu comme aujourd'hui l'ordinateur le fait pour le réseau Internet, le type de chemin que va prendre le message de l'émetteur jusqu'au récepteur? Il préfère la mer, il préfère la route, on ne sait pas très bien ça, Sylvie Roger Pietrequin.
Tout dépend de la destination. Si on va de Rome à Alexandrie, évidemment, c'est la mer qui prévaut, parce que sinon, vous imaginez qu'il faut traverser de toute façon.
Et il y a des relais dans les ports aussi?
Ah non, une fois qu'on est monté sur le bateau, on arrive.
Non, mais est-ce qu'il y a des relais de poste, enfin des relais de poste?
Il y a un bureau, une administration où il y a quelqu'un qui vient tamponner, vérifier que celui qui porte le message peut monter dans le bateau gratuitement, si je puis dire.
Claire Sotinel.
Oui, donc les gens choisissent en fonction du temps. Il y a une très bonne connaissance, non seulement des saisons, mais aussi des vents. Pour la mer, et les choix se font en fonction de ça.
Merci à toutes les deux. Si nos auditeurs ont été intéressés comme nous par ce thème-là, qu'est-ce que vous leur conseillez de lire? Sylvie Roger Pietrequin, on peut trouver vos articles sur Cairn, sur Persée, sur tous ces rassemblements d'articles que sont ces sites, justement, cairn.fr ou cairn.info, et puis Persée, par exemple, et puis sinon.
Je pense que la revue, les dossiers de l'archéologie en janvier-février 2011 sur les voies romaines autour de la Méditerranée est une bonne première approche, puisque là on parle effectivement des voies, mais on aura en Brussôme, on aura les relais de poste, etc., et même les tabellaries.
Et pour vous, Claire Sotinel?
Moi, on trouve quelques articles sur Persée, mais à vrai dire, je ne publie pas assez
sur ce thème. Merci à vous deux. Donc, merci également à Marie-Vianne Bolivier et Aurélie Marseille qui ont préparé cette émission. Tanguy Le Corneau était à la technique et Françoise Camard à la réalisation. Si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres, eh bien, vous pouvez bien entendu nous écrire, là, en l'occurrence, par l'écriture électronique, sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Nous laisser des messages également sur le groupe des Amis de la Fabrique de l'Histoire, sur un réseau social bien connu. Demain, on se retrouve pour une émission particulière, premier vendredi du mois, avec vous, Perrine Cavran, et nous serons avec Fabrice Dalméda, Arlette Farge et Pascal Horry pour traiter des fictions d'histoire, donc romans, bandes dessinées, films et pièces de théâtre.